Bien-aimés, le Seigneur met à cœur le rappel d'un mot, qui revient souvent dans la parole de Dieu. Un mot qui est très actuel. Un mot qui est sérieux aussi. Le mot maintenant. J'aimerais m'arrêter tout d'abord sur le dernier essai de 1 Samuel 9. Nous lisons au verset 27 de 1 Samuel 9, comme il descendait au bout de la ville, Samuel dit à Saül, dis au jeune homme qui passe devant nous, et il passa, et toi, arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Quelques pensées sur ce premier passage, élevé pour la plupart dans les familles chrétiennes. La parole de Dieu a été ouverte souvent devant nous. Mais chaque fois que le Seigneur nous convoque dans ce lieu, et c'est lui qui nous envoie une sainte convocation, pour reprendre un mot du livre du Lévitique en particulier, et d'ailleurs, chaque fois qu'il nous rassemble chez lui, avec lui, autour de lui, il y a le rappel de ce mot qui est sous nos yeux, qui est devant nos cœurs. Maintenant, arrête-toi pour entendre la parole de Dieu. Nous nous sommes peut-être habitués au fil des années à voir la Bible ouverte, à entendre la lecture et la méditation de quelques passages. Nous sommes reconnaissants d'être là, de ceux qui entendent, qui voient. Mes chers amis, est-ce que la parole a chaque fois eu cet impact sur nos cœurs? Est-ce que la lecture et la méditation de la parole de Dieu sous la direction de l'Esprit nous a amené à ce désir bien arrêté de faire des progrès? Comme dit l'apôtre Pierre à la fin de sa deuxième épître, croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus. J'aimerais que ce mot de Samuel à Saül retentisse dans nos esprits et dans nos cœurs. Maintenant, arrête-toi. Nous sommes devant la parole de Dieu. Et en prononçant le mot « parole », il nous faut avoir devant les yeux et devant le cœur celui qui est la parole. Le premier chapitre de Jean nous donne en détail quelque chose des gloires de sa personne et d'autres passages, bien sûr. Mon frère me disait il y a fort longtemps, quand tu ouvres ta Bible, réalise que tu as devant toi Christ écrit. Christ écrit. Mais arrête-toi maintenant. Chers amis, que notre regard se porte sur celui qui est la parole et que nos oreilles soient ouvertes pour écouter cette parole et que nos cœurs soient ouverts avec le désir de la garder. Saül devait entendre la parole de Dieu. Il devait savoir, selon le chapitre qui suit, ce qui en est du tombeau de Rachel, qui était dans sa famille, ce qu'est la mort à la chair. Il devait savoir ce que signifie Bethel, lieu de promesses et d'adoration, Il devait savoir aussi que sur le coteau, il y avait les ennemis. Saül n'a pas entendu, n'a pas écouté de la bonne manière. Mais ce soir, le Seigneur nous dit maintenant, arrête-toi pour entendre la parole de Dieu. Dans la deuxième épître aux Corinthiens et au chapitre 6e, au verset 2, par deux fois, nous avons le mot « maintenant ». En voyant beaucoup de jeunes parmi nous, je pense aussi à ces deux « maintenant » de 2 Corinthiens 6. Alors que l'apôtre est conduit par le Seigneur à écrire que c'est maintenant le temps agréable, c'est maintenant le jour du salut. Depuis plusieurs années, vous avez entendu, vous avez peut-être chanté des cantiques, je veuille que vous en chantiez, mais s'est-il passé quelque chose entre votre cœur et celui qui a porté lui-même en son corps sur le bois de nos péchés? Y a-t-il eu cet arrêt devant la croix? Y a-t-il eu dans nos cœurs à tous ce qu'est le sentiment de la perdition, le fait d'avoir offensé Dieu, le fait que je suis un pécheur dans ma nature et que je mérite le juste jugement de Dieu? Est-ce que, comme le jeune Esaïe, un jour, j'ai dû dire « je suis un homme perdu » Nous risquons de nous habituer dans nos familles à une musique qui est bien précieuse, par les cantiques, par la lecture, par les contacts avec d'autres amis. Mais, chers amis, avons-nous réalisé ce qu'est la perdition, ce qu'est la confession, ce qu'est la repentance? On a dit de la repentance que c'est un changement de pensée à propos de soi-même déjà. Je dois réaliser que je suis perdu, que je suis pécheur, que je mérite le jugement. Et je dois réaliser aussi, avec ce mot repentance, ce changement de pensée à l'égard de Dieu. Ah, on entend souvent répéter, mais Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu ne m'a pas amené ici-bas pour m'envoyer en jugement. C'est tout faux. N'enlevons rien, bien-aimé, au don inexprimable de Dieu. N'enlevons rien à la valeur du sang qui a coulé du haut de la croix pour chacun de nous. J'aimerais tellement que dans tous nos cœurs, il se passe vraiment quelque chose au rappel de cette croix dressée, au rappel de celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang précieux. Y aurait-il un cœur qui soit resté fermé? Y aurait-il quelqu'un qui ce soir ne peut pas dire en vérité « Jésus est mon sauveur » Nous vivons un temps sérieux. On n'aime pas entendre parler du péché. En prononçant le mot conversion, il y a peut-être quelques moqueries. Connaissons-nous le Seigneur? Lui appartenons-nous? Est-ce qu'il y a dans notre cœur ce renversement total qui fait qu'en venant à Jésus, je passe des ténèbres à la lumière, de Satan à Christ, du monde au Père. Ce sont trois expressions des épîtres de Jean qu'il faut rappeler, qu'il faut souligner, qu'il faut vivre. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le temps agréable. Ne laissons pas passer le temps, chers amis. C'est peut-être la dernière fois que le Seigneur appelle quelqu'un à venir à lui. C'est peut-être la dernière fois qu'il étend vers toi sa main percée et qu'il te dit, selon le prophète, « Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Il est question de quelqu'un dans le chapitre 46 de Jérémie, je crois, qui a laissé passer le temps que personne ne laisse passer le temps. Le temps où l'on vient au Seigneur, le temps où le cœur s'ouvre pour le recevoir. Vous savez, le verbe recevoir est très sérieux. Les Thessaloniciens avaient reçu la parole et l'avaient retenti de chez eux. Dans le premier chapitre de Jean, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Mais dans 2 Thessaloniciens, après l'enlèvement de l'Église, peut-être ce soir, si la dernière pierre est ajoutée à l'édifice, après l'enlèvement de l'Église, Dieu envoie une énergie d'erreur pour que les hommes croient au mensonge. Et nous avons un mot solennel, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. J'aimerais tellement que cette expression soit touchante pour un cœur qui ne s'est peut-être pas encore ouvert. C'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Demain, c'est trop loin. Et alors, en pensant à tous ceux qui appartiennent au Seigneur, à tous ceux qui ont eu ce contact avec lui, et Dieu veuille que tous nous soyons de ceux-là, j'aimerais m'arrêter sur le maintenant de Josué 1. Et il arriva, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, disant, Moïse, mon serviteur est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, fils d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse, vos frontières seront depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Fin du verset 5, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fin du verset 9, l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Maintenant, lève-toi. Moïse, mon serviteur, est mort. Vous savez combien nos cœurs sont douloureux devant le départ de chers frères, de chères sœurs, qui par la grâce de Dieu ont servi le Seigneur en leur temps. Vous savez que les épreuves ne manquent pas dans le peuple de Dieu, dans nos familles, dans les assemblées, partout. J'aimerais que ce mot de l'Éternel à Josué retentissent aussi dans nos cœurs. Le temps presse, le temps passe. Maintenant, lève-toi. Toi, Josué, toi qui de bonheur a entendu la parole de Dieu par Moïse. Toi qui as été formé, préparé dans l'attente d'assignation. Toi qui as servi Moïse. Toi qui as été désigné pour lutter contre un ennemi qui s'appelle Amalek. Toi qui as déjà témoigné avec Caleb pour Dieu, pour sa parole, alors que le peuple cherchait à vous lapider tous deux. Toi, Josué, qui a été au bénéfice de privilèges particuliers, étant très près de Moïse et de la parole de Dieu, eh bien, maintenant, lève-toi. Chers amis, se peut que nous soyons reconnaissants de tout ce que nous avons reçu par le Seigneur, par le moyen de la parole et de ceux qui l'ont ouverte devant nous. Mais il se peut que nous en restions là, gentiment. On aime être là, c'est juste. Mais pour les intérêts du Seigneur, pour la gloire du Seigneur, pour le nom de Jésus, maintenant, lève-toi. Lève-toi. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Et n'y a-t-il pas dans notre vie souvent des décisions, des choix? Ce n'est pas à l'aventure que le psalmiste est conduit à rappeler dans son psaume 32 au verset 8 ces trois choses. Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Maintenant, lève-toi. Chers amis, n'attendons pas les cheveux pour prendre acte de nos privilèges et de nos responsabilités dans l'Assemblée de Dieu, dans les familles des gens. Maintenant, lève-toi. En pensant à tant de départs, et en pensant, je le répète, au temps qui presse et qui passe, maintenant. Et le Seigneur ne nous demande pas quelque chose sans rappeler ce que sont ses ressources. Ne l'oublions jamais. C'est pourquoi nous avons ce verset 3 de Josué 1. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Pour avancer dans le pays, dans les bénédictions spirituelles, en ce qui nous concerne, bien sûr, il faut l'énergie de la foi. C'est pourquoi il est écrit « tout lieu que foulera votre pied ». Mais remarquons ce mot de Dieu lui-même, « je vous l'ai donné ». Ah, combien nous sommes petits pour apprécier et pour compter les bienfaits de Dieu. Tout lieu que foulera votre pied. Dans ce pays, je le répète pour nous, bénédiction spirituelle, je vous l'ai donné. Et puis, dans ce même chapitre premier de Josué, Dieu rappelle, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Il y aurait long à dire et à rappeler sur la sacrificature de Christ avec ce passage. Le Seigneur nous a achetés à un prix si élevé qu'il ne peut pas, nous laisser à l'aventure. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Y aurait-il parmi nous un cœur chargé Y aurait-il un ciel chargé? Y aurait-il quelqu'un qui soupire? Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. J'ai été élevé sur la croix pour toi. Et c'est dans le chapitre 22 de Luc, sauf erreur, que nous avons trois éléments de la sacrificature de Christ. Regarde. Il parle à Pierre. Il prie pour Pierre. Il regarde Pierre. Le regard du Seigneur est sur nous ce soir. Le Seigneur nous parle ce soir. Le Seigneur prie pour nous ce soir, comme tout. Je ne te laisserai point, cher ami, dans la paix. Souviens-toi de ce passage. Je ne te laisserai pas. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. J'ai été abandonné de Dieu. Je ne peux pas te laisser. De sorte que nous disions, dit l'Épître que vous savez, le Seigneur est mon aide, que me fera l'homme. Et c'est Pierre qui, à la fin de sa première épître, rappelle ces mots, il a soin de vous. Nous ne comprenons peut-être pas ces voix, nous sommes trop petits. Ces pensées sont au-dessus des nôtres. Le jour vient où les pourquoi feront place au parce que. Mais, chers amis, il ne peut nous laisser. Ne crains point, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai, dit Esaïe 41:10. Et comme si ce n'était pas suffisant de dire « Je t'aiderai », il est écrit « Oui, je t'aiderai ». « Oui, je te soutiendrai ». Et comme si ce n'était pas suffisant, le verset 13 d'Ésaïe 41 le souligne encore. « Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. » Oh, chers amis, puisons largement aux ressources qui sont celles du Seigneur, de sa grâce infinie, les ressources de celui qui me porte sur son cœur devant Dieu continuellement. L'avons-nous réalisé aujourd'hui même, bien aimé? Porté sur le cœur du Seigneur devant Dieu continuellement. C'est la parole qui le souligne par deux fois dans le chapitre 28 de l'Exode. Porté sur ses épaules dans ce même chapitre. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais voilà, Josué, il faut que cette parole soit sur ton cœur, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Quelquefois, on voudrait faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Alors que le Seigneur nous demande de nous arrêter humblement devant l'autorité de sa parole. Et on ne se lève pas n'importe comment pour lire la parole de Dieu et pour dire quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas à l'aventure que le doux psalmiste d'Israël, à la fin de son voyage en 2 Samuel 23, nous disent au début du chapitre, l'Esprit de l'Éternel a parlé par moi. Sa parole a été sur ma langue. On ne se lève pas n'importe comment pour lire et méditer. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche. Serrons nos Bibles, chers amis, sur nos cœurs. Apprécions le fait dans ce pays d'être libre pour la lire, la méditer, pour annoncer encore les choses magnifiques de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Ne craignons pas, mes amis, de nous lever pour les intérêts, pour le nom et pour la gloire du Seigneur. Avec le mot « maintenant », j'aimerais toucher aussi en 2 Chroniques 29, les versets 10 et 11. Il n'est pas à l'aventure que la parole insiste sur ce mot. 2 Chroniques 29, versets 10 et 11. Et celui qui prononce ces paroles, c'est un roi qui est jeune et qui a pris très à cœur la maison de l'Éternel, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Que dit-il? Maintenant, j'ai à cœur de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, afin que l'ardeur de sa colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, ne soyez pas négligents, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour que vous vous teniez devant lui pour le servir et pour être ses serviteurs et ceux qui lui offrent ce qui se brûle sur le feu. Un jeune roi qui est engagé de cœur pour son Dieu, Ézéchias. Si vous prenez la peine de lire les chapitres 29 à 32 de 2 Chroniques, vous soulignerez tous les passages où il est question du cœur de cet homme. Et vous soulignerez tous les passages où ce jeune roi entre dans la maison de l'Éternel. Il y a là une instruction, une édification particulière pour nous tous. Et ce que nous venons de lire n'est-il pas remarquable? Que ce jeune roi s'adresse paternellement à ses sujets en leur disant maintenant, mes fils, ne soyez pas négligents. C'est vous que l'Éternel a choisi pour le servir, pour être ses serviteurs et pour être ceux qui lui offrent ce qui se brûle sur l'autel. Oh, chers amis, apprécions le fait d'avoir été enseigné dans ces choses, de réaliser ce que nous devons à notre Dieu et Père. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ceux qui, chaque premier jour de la semaine, devant les signes qui rappellent les souffrances et la mort de Christ, être ceux qui parlent à Dieu le Père de son bien-aimé, qui offre ce qui se brûle sur l'autel. Maintenant, mes fils, il y a là un langage touchant. J'aimerais qu'il reste aussi sur nos cœurs ce soir et pour demain, si nous sommes là, si le Seigneur n'est pas venu. Mais vous, que vous n'êtes pas là dans ce monde à l'aventure, comme ceux qui n'ont pas d'espérance, choisi pour servir. Et la parole insiste sur la façon de servir. Nous n'avons pas le temps matériel de rappeler beaucoup de passages, mais Samuel, dans son premier livre et dans son chapitre 12, par deux fois dans les versets 20 et 24, s'adresse au peuple en disant: servez l'Éternel de tout votre cœur, de tout. Quelquefois, on est d'accord de servir, peut-être le dimanche matin, peut-être l'après-midi, peut-être une fois de temps en temps la semaine. Mais Samuel, de la part de Dieu, dit, servez l'Éternel de tout votre cœur. C'est un cœur engagé. C'est quelque chose qui n'est pas accidentel, passager. C'est une constance du cœur, disait un cher frère de votre pays. Dans le psaume 2, servez l'Éternel avec crainte. C'est le Seigneur. Il y a un respect, il y a une révérence. Dans le psaume 100 et au verset 2, servez l'Éternel avec joie. Ce n'est pas seulement un devoir, c'est un privilège, c'est une joie que de servir le Seigneur en levant. Et puis dans le peintre des Actes, celui qui a été arrêté sur le chemin de Damas, celui qui entrait dans les maisons pour faire tout le mal que vous savez, il entre maintenant dans les maisons, acte 20, pour prêcher la repentance et la foi. Et c'est lui qui, dans le verset 19, ce fait, nous donne ce mot, servons le Seigneur en toute humilité. Si j'ai affaire avec celui qui a été élevé sur la croix à cause de moi, je ne pourrais pas m'enorgueillir, chers amis. N'allons pas nous glorifier de quoi que ce soit. C'est un danger qui nous guette. Tout est pure grâce de la part du Seigneur. Servons le Seigneur en toute humilité. Et quelle grâce si à l'occasion on peut dire un mot de sa part. Un mot qui touchera peut-être un cœur. Un mot qui encouragera un ami dans la peine. Un mot qui amènera quelqu'un au pied de la croix. J'aurais désiré m'arrêter sur d'autres maintenant, ceux du Nouveau Testament, il y en a beaucoup. Mais je rappelle tout de même celui que nous avons dans Luc 2. Le cas de ce vieillard qui, conduit par l'Esprit et averti par Dieu, vient à l'endroit où était le petit enfant. Luc 2, verset 25, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur. Il vint par l'Esprit dans le temple, et comme ses parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Oh, chers amis, connaître le lieu de la présence du Seigneur, connaître le lieu où, conduit par l'Esprit de Dieu, nous pouvons nous écrier chaque premier jour de la semaine, spécialement, mais à chaque réunion, maintenant, mes yeux ont vu ton salut. Et qu'est-il écrit ? Il bénit Dieu. Chers amis, y a-t-il de la reconnaissance dans nos cœurs ? Y a-t-il cette adoration profonde ? Pouvons-nous dire avec les fils de Corée, dans le psaume 45, pouvons-nous dire chacun mon cœur bouillonne d'une bonne parole. La louange rendue à Dieu, l'adoration rendue à Dieu, n'est jamais soulignée dans la Bible d'une façon relative. Jamais. C'est un cœur qui bouillonne. Tu es plus beau que les fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Dans le psaume 145 et au verset 7, il est dit, ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté. C'est quelque chose qui jaillit. Alors que souvent, nous avons les dents serrées pour dire un mot de reconnaissance au Seigneur. Mon cœur bouillonne. Ils feront jaillir. Et c'est le Seigneur, je crois, dans le 12 de Matthieu, qui dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Pensons à ce vieillard. Il n'avait pas la parole comme nous, mais il avait été averti par Dieu. Il vient par l'Esprit. Maintenant, mes yeux ont vu ton salut. Et bénis Dieu. Qu'il y ait dans nos cœurs une adoration profonde, bien aimée, au rappel de ces passages. Et si le Seigneur nous laisse un peu de temps, à propos de l'adoration, il aurait fallu s'arrêter, bien sûr, sur Jean 4, verset 23, l'enseignement du Seigneur à la femme de Samarie, dans ce chapitre où on a dit que l'amour suprême rencontre la suprême misère. Le Père a cherché des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et nous avons aussi le mot maintenant. L'heure vient, elle est maintenant. Et en terminant, j'aimerais rappeler qu'à la fin de 1 Corinthiens 13, plusieurs fois, nous avons ce mot, plusieurs fois, maintenant, je connais en partie. Maintenant, je vois obscurément. Mais, dit l'apôtre, inspiré, alors, face à face. En disant au début de la réunion que ce mot est très actuel, c'est le mot d'aujourd'hui. Le mot de tout à l'heure, c'est alors, face à face, portant notre regard chrétien vers celui qui vient bientôt, la parole ne se fermant pas sans le rappel des trois « je viens bientôt ». Alors, face à face.